France Culture.
Réplique, la France, l'Europe et le nouvel ordre mondial avec Pierre Manin et Hubert Védrine. En février 2022, la guerre a fait son retour sur le sol européen. En janvier 2025, Donald Trump est entré pour la deuxième fois à la Maison-Blanche et dès son installation, il a déclaré que l'Union européenne avait été créée pour baiser, to screw, les États-Unis d'Amérique, à la grande satisfaction du Kremlin. Que se passe-t-il? Où va le monde? Qui sont nos amis? Qui sont nos ennemis? Que reste-t-il de l'Occident? Tous nos repères vacillent. Nous sommes désorientés et même désemparés. Pour sortir de la sidération, il ne fallait pas moins qu'un grand philosophe, Pierre Manin, et qu'un grand politique, Hubert Védrine. Le 28 février, ils ont vu, comme nous tous, l'incroyable face-à-face dans le bureau ovale, entre Donald Trump flanqué de J.D. Vance et Volodymyr Zelensky. Je voudrais donc leur poser la question suivante. Comment avez-vous vécu ce spectacle? Quelle signification, selon vous, faut-il lui accorder, Hubert Védrine?
C'est la confirmation du fait qu'on a changé d'Amérique, qu'il faut oublier l'Amérique du XXe siècle, qui nous a façonnés, même au-delà du XXe, puisque ça va en gros de... On va oublier la parenthèse Wilson, puisque le Sénat avait rejeté la Société des Nations et revenu à l'isolationnisme classique, en tout cas par rapport à l'Europe, et on va dire de Roosevelt à Biden, en gros. Et on a une Amérique différente qui a gagné, hein. Trump et Vance. Vance représentant, dire, la version populaire vraie du trumpisme, à mon avis, phénomène durable, et on a eu ce choc à l'occasion de cette confrontation malheureuse. Quand on voit la vidéo complète, on voit mieux l'enchaînement de l'agressivité, en fait, de part et d'autre.
Vous dites de part et d'autre?
Oui, parce que le Zelensky a été très offensif. Mais au risque d'étonner, je dirais que c'est une question frappante, perturbante, vous l'avez dit, qui s'inscrit dans une scène beaucoup plus large, qui est que les Occidentaux n'ont plus le monopole de la puissance, que les Américains s'y sont jamais résignés, jusqu'à Trump. Changement, il n'y a plus d'Occident, en fait. Et les Européens, parce qu'ils se sont jetés dans l'illusion de la communauté internationale. Donc c'est en gestation depuis longtemps, et que donc dans l'état du monde où il n'y a pas d'ordre mondial, il y a un désordre mondial évolutif, ça devait arriver un jour ou l'autre, parce que je pense, moi, comme les vieux réalistes américains, que les États-Unis ont complètement raté la gestion de la Russie après la fin de l'URSS, très bien la fin de l'URSS, très mal la suite, et que quelque part, il y a une question non réglée qui devait réexploser. Ça se passe à travers la malheureuse Ukraine. Donc, j'ai pas été complètement sidéré par la scène, mais ça n'enlève rien à sa signification déstabilisante, choquante, inacceptable. Mais après, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais je l'inscris dans un phénomène historique. C'est pas occidental, c'est ça que je veux dire.
Pierre Manin.
Oui, je ne pense pas qu'il faille... y voir trop de choses, mais il est vrai qu'elle est malgré tout révélatrice, et révélatrice de plusieurs transformations aujourd'hui du rapport à la politique. D'abord, l'effacement de la distinction entre l'intérieur et l'extérieur, le privé et le public, n'est-ce pas? Parce que j'imagine que les hommes d'État se sont parfois frités, comme on dit populairement, en privé, mais que en général, leurs disputes ou leurs discussions, même très vives, n'étaient pas portées à la connaissance du public. Là, non seulement elle était portée à la connaissance du public, mais tout était organisé pour qu'elle soit portée à la connaissance du public. Donc, c'était une séance d'humiliation. Alors, il y a une part certainement d'improvisation, comme vient de le dire Hubert Védrine, mais il y a aussi une part d'organisation préalable. Donc, les États-Unis ont voulu bien montrer qui était le patron et comment il fallait obéir au patron. Donc Zelensky a été délibérément humilié, et la chose la plus choquante n'était pas la conduite de Donald Trump, mais plutôt celle du Judith Vance, qui était normalement dans le couple celui qui devait argumenter rationnellement et qui a été d'une certaine façon le plus agressif et même qui a été assez servile à l'égard de son président. Donc c'était une scène extrêmement pénible, mais dont le sens indique la nouvelle orientation de la politique américaine que vient de rappeler Hubert Védrine, à savoir que non seulement dans le calcul américain, mais plus encore dans leur disposition psychique, si j'ose dire, dans leurs sentiments, dans leurs affects, l'Europe devient l'ennemi principal, n'est-ce pas ? Or, là, c'est un phénomène très étonnant, très intéressant. Les Américains ont souvent été très dominateurs à l'égard de l'Europe. Ils nous ont très maltraités au moment de l'affaire irakienne. Ils ont parlé de la France en particulier en des termes très offensants en 2003. Mais malgré tout, c'était autre chose. C'était l'Empire qui, en quelque sorte, rappelait ses dépendants à leur devoir. Là, c'était bien plus autre chose. C'était l'ex-empire qui signifiait que maintenant il n'avait plus d'empire bienveillant, il y avait une puissance qui en avait assez de payer pour les autres. Et c'est une puissance qui est en déclin et qui compense en quelque sorte ce déclin par une manifestation de force, d'exagération de sa propre force, qu'elle ne peut pas diriger contre ses adversaires, qu'elle dirige donc contre ses alliés. Et l'Europe fait aujourd'hui les frais d'une sorte de panique américaine devant un monde qui lui échappe et qu'elle essaie de rattraper de la façon chaotique que l'on voit aujourd'hui.
Alors, je voudrais ajouter quelque chose personnellement sur cette scène. Zelensky a été accueilli par Trump sur le perron de la Maison-Blanche par ces mots « Dites donc, vous êtes mis sur votre 31 ». Un journaliste MAGA a reproché à Zelensky de ne pas avoir mis un costume. Et ça m'a beaucoup frappé. Zelensky lui-même était tout à fait déboussolé par cette interpellation. Et Renaud Camus a fait une remarque très juste dans son journal. Il dit « La tenue d'un randonneur à t-shirt historié et la casquette de baseball d'Elon Musk n'avaient semblé gêner personne dans les mêmes cercles et sur les mêmes lieux 15 jours plus tôt, quand le milliardaire et son fils passaient derrière le bureau présidentiel du bureau ovale. » Donc tout ça, voilà, c'est une remarque adjacente, mais je tenais à la faire parce que ça me paraît quand même révélateur. Mais la question est de savoir que se passe-t-il ? Qu'est-ce que Trump représente ? Nous ne sommes plus à l'heure de l'Empire, dites-vous, Pierre Manon. Et on peut penser en effet que l'Amérique revient à l'isolationnisme. Mais en même temps, le comportement de Trump est très impérialiste, c'est-à-dire il veut le Groenland, il veut faire du Canada un État américain, il lorgne sur le golfe de Panama. Donc, America Great Again, ce n'est pas la grandeur des principes, ça c'est clair. C'est pas la grandeur au sens gaullien, c'est une grandeur purement physique, mais c'est une grandeur qui va de pair aussi avec un certain agrandissement. Alors que penser de cela? Si c'est pas l'Empire au sens ancien, ce n'est pas non plus la tradition isolationniste. Alors c'est quoi Make America Great Again, Hubert Védrine?
Alors d'abord, je ne pense pas que l'Europe soit la cible principale, ou la cible unique. Ça, c'est une vision européenne que je comprends, que je ne partage pas entièrement, que je trouve un peu européocentré, mais tout à fait honorable. Le véritable élément, c'est que les États-Unis, qui étaient donc isolationnistes par rapport à l'Europe à l'époque du président Washington, ne vous mêlez jamais des conflits entre Européens. Ils n'ont jamais été par rapport à l'Ouest américain, par rapport au Mexique, par rapport à l'Asie, etc. Bon. Mais ils ont été en gros comme ça, en tout cas unilatéralistes, jusqu'à l'époque Deuxième Guerre mondiale. Bon. Donc on voit arriver des gens qui sont élus, Trump et Vance, élus par un peuple américain qui veut donner un coup d'arrêt à la mondialisation qui était trop loin, et un peuple américain qui veut donner un coup d'arrêt au progressisme américain devenu woke. C'était très important dans le vote chez les latinos, notamment, et chez les noirs protestants. Et on a affaire à des gens qui nous sidèrent tout à fait dans l'analyse, c'est pour ça qu'on croit que c'est contre nous, mais c'est pas que contre nous. Ils considèrent que les États-Unis ont eu tort d'accepter aux supplications des Européens d'après la guerre pour les protéger. C'est les Européens qui ont demandé C'est pas de l'impérialisme. Le Sénat n'était pas d'accord, d'ailleurs, c'est Truman qui a arbitré. Donc on a créé l'Alliance Atlantique, dans laquelle c'est pas des alliés, il y a un protecteur et des protégés. Et on a vécu là-dessus plus de décennies, en dépit des doutes sur est-ce que ça marcherait vraiment. Bon, voilà, ça a continué. Et on voit des gens qui disent non. L'ensemble des pays qui ont des excédents commerciaux sur les États-Unis sont des parasites, y compris les Européens. Vous dites qu'on est alliés, on n'a pas d'alliés, on s'en fiche, c'est des parasites. Et on serait dans un débat au Mexique, on considérait que l'ensemble de la politique Trump est centrée contre le Mexique. Et on serait à Montréal, on dirait que c'est centré contre le Canada. On est à Paris, donc c'est centré contre l'Europe. Mais je crois que c'est même pas le cas, en fait. On a tout à fait le droit de l'analyser comme ça, philosophiquement, et de combattre là-dessus pour cette raison. Mais il y a une vision mondiale, c'est ça qui se lance dans une guerre commerciale. Mais c'est un phénomène beaucoup plus global, qui n'est pas exactement isolationniste, parce qu'il ne va pas renoncer à cette flotte, ni au budget du Pentagone, ni au dollar, ni aux sanctions, etc., etc. Mais c'est unilatéraliste, mercantiliste, exporter un maximum, importer un minimum, et pas avoir d'alliés. Sauf qu'il ne pourra pas casser complètement. L'Occident ne fonctionne plus, puisqu'on voit bien que les valeurs ne sont plus les mêmes, quand on regarde Van de Saar à Munich, qui a parlé en partie comme Solzhenitsyn. Hein. C'est choquant pour nous, mais en partie.
C'est-à-dire
L'Occident très est fichu parce que l'Occident a abandonné les valeurs chrétiennes, en résumé. Il y a une partie comme ça, puis il y a une partie beaucoup plus violente. En tout cas, il n'y a plus d'Occident, il reste un lien transatlantique. Et on va voir dans les semaines qui viennent, à travers les réactions en Europe, sur la façon d'organiser la défense de l'Europe demain et après-demain, si ça fonctionne encore. Voilà l'ampleur du choc.
Pierre Manon.
Non, je ne pense pas que l'Europe soit la cible principale, point de vue du calcul politique, mais elle est devenue la cible de l'animosité particulière de l'administration américaine, parce que ce sont eux qui ont le plus profité de nous. Voilà.
Et là, mais c'est ça.
Il est très frappant de voir que ça devient obsessionnel, y compris ce qui s'est passé récemment avec la fuite concernant le dialogue au plus haut niveau des décideurs américains concernant la protection de la navigation dans le Golfe. Et on a dit, c'est pas possible, on les défend alors que 40% de leur commerce passe par là, et nous 3%. Donc, c'est à eux de payer. Donc, je résume mon analyse de la façon suivante. Il y avait un empire américain. Et un empire américain de bonne tenue, comme il a été, réclame une certaine générosité de l'empire. Donc, on accepte de perdre de l'argent dans certaines parties de l'administration de l'empire. Ça fait partie ça vient avec la fonction.
Un empire demandé, hein,
oui.
Par les Européens.
En tout cas par les Européens, peut-être pas par les Latino-Américains, mais par les Européens. Donc je me suis attiré les foudres de souverainistes il y a quelques années, parce que j'avais dit que l'Empire américain avait le rare mérite, partagé avec celui d'Alexandre, d'avoir été généreux. Donc ils n'ont pas aimé cette proposition. Je maintiens que, à certains égards, et en tout cas à l'égard de l'Europe, les Américains ont été généreux. En tout cas, bien qu'on dise un empire demande une certaine générosité. À partir du moment où l'empire est trop affaibli et où le coût de l'empire devient très élevé, que fait-on ? Et je crois qu'il s'agit de battre en retraite. Et je crois que Trump est en train d'essayer de battre en retraite en quelque sorte sectorisant son empire pour voir ce que chaque partie de l'empire lui coûte. Et faire payer à chacun ce qu'il lui coûte. Donc, ces calculs d'apothicaire ont une certaine rationalité. Ils paraissent extrêmement mesquins, extrêmement grossiers. En effet, ce n'est plus l'élégante Amérique à laquelle nous étions habitués. Mais, en un sens, ils ont cette rationalité. Alors, est-ce que cela fait une politique cohérente? Certainement pas, parce qu'il est certainement très difficile de calculer le coût de chaque partie de l'Empire. Et surtout, il y a une certaine rationalité à l'Empire, qu'il y ait un seul administrateur de l'ensemble. Et au fond, tout le monde trouvait un certain confort, y compris les ennemis des États-Unis, au fait qu'il y avait un assureur en dernière instance, un administrateur en dernière instance. On savait que malgré tout, au bout du compte, il y avait quelqu'un, il y avait un adulte sur la planète, qui finalement, comme disait Churchill, après avoir essayé toutes les mauvaises solutions, finissait par trouver la bonne, et cela rassurait tout le monde. Aujourd'hui, cet assureur en dernière instance a disparu. En tout cas, il paraît avoir perdu la tête, et il s'agit de s'adapter.
Il s'agit de s'adapter. Oui, Hubert Védrine, vous voulez intervenir tout de suite.
Là où il y a une animosité particulière sur l'Europe, c'est sur sa prétention et sa capacité à réguler les plateformes.
Oui,
c'est pour ça que les oligarques de la tech se sont mis derrière Trump, quoi qu'ils pensent. Il faut empêcher l'Europe d'appliquer l'ensemble des directives issues du mandat breton, qui était très bon. Ça y est, c'est vraiment direct, là, parce que les autres n'ont pas cette prétention. Vous voyez ? Deuxièmement, je crois que dans leur tête, le vrai bras de fer, c'est pas Russie, Et l'Europe, c'est pas central, c'est secondaire, en fait, c'est la Chine. Donc c'est le bras de fer. La Chine, depuis Xi Jinping, a abandonné la prudence de Deng Xiaoping et dit on fait devenir numéro un. Et l'Amérique répond que sur l'Amérique d'Obama ou de Trump, jamais. Alors après, il y a un changement énorme sur la façon d'endiguer, mais ça, il y a un accord sur ce point. Du coup, l'empire sollicité par les Européens, obtenu par les Européens, l'Alliance Atlantique, etc., ça devient encombrant, superflu, sans doute trop coûteux. Et on va voir comment ça tourne. Mais il faut revenir à la vraie option que partage Trump sur comment endiguer la Chine.
Comment
tout le reste est secondaire, même la Russie.
Oui, alors, la Russie est secondaire, mais en même temps, si l'on repense à la scène du bureau ovale, Trump semble vouloir renverser les alliances, non seulement punir l'Europe, mais il se tourne, malgré tout, du côté du Kremlin, dans le cadre de ce conflit. Il abandonne l'Ukraine, alors que l'administrateur, comme vous disiez, précédent Joe Biden, voulait renforcer, voulait aider l'Ukraine. Alors il faut en rester un peu à la question, justement, de la Russie. Quelle est, à votre avis, la nature de la menace russe aujourd'hui dans le monde, mais surtout en Europe, Pierre Manant?
Le gouvernement russe, Vladimir Poutine, a décidé de reprendre le contrôle de l'Ukraine. Et pour reprendre le contrôle de l'Ukraine, il a décidé d'effacer la nation ukrainienne. Donc il y a deux choses à considérer. Il y a d'une part ce que tout le monde souligne, la rupture du droit international, l'invasion d'un pays indépendant. Mais il y a aussi, plus important à mes yeux, car cela montre à quel point la passion de Poutine et de la Russie est investie dans l'entreprise, il s'agit d'effacer une nation dont on conteste le droit à l'existence, dont on conteste, non pas le droit à l'existence, mais l'existence même. Donc, Poutine a construit son pouvoir personnel au long des années, et tout dépend de lui. Il a tous les pouvoirs, et il a décidé de mettre tous les pouvoirs dans l'accomplissement de l'objectif qui est devant lui, non pas de conquérir le monde, d'aller jusqu'à Brest comme des amuseurs le font semblant de le croire, n'est-ce pas, mais de reconstituer largement l'empire russe en effaçant l'Ukraine et en effaçant la nation ukrainienne. Voyez dans quels termes, il faut bien le dire, humiliant, insultant, cruel, tout l'entourage de Poutine, tous les organes pouvoir russes parlent des Ukrainiens. Comment les prisonniers de guerre ukrainiens sont traités, humiliés systématiquement par leurs geôliers russes et sont ensuite libérés afin qu'ils signalent à leurs concitoyens comment ils sont destinés à être traités par le pouvoir russe une fois qu'il aura repris le contrôle de l'Ukraine. Donc nous sommes devant en effet une entreprise non seulement de conquête d'une province ou d'une partie de l'Ukraine, mais une entreprise de domination de l'Ukraine en supprimant la nation ukrainienne. Donc la conséquence pour l'Europe est évidemment énorme, puisque une fois que le régime russe tel qu'il a, Poutine l'a fait évoluer, a permis l'entreprise de conquête, de déclencher l'entreprise de conquête, et l'entreprise de conquête cristallise en quelque sorte ce régime qui maintenant n'a plus qu'une seule raison d'être, étendre l'espace de sa domination.
Donc il peut aller plus loin que l'Ukraine.
Il n'a pas besoin d'aller tellement plus loin pour causer des dommages majeurs à l'ensemble européen, parce que tout l'Est, le Sud-Est de l'Europe sera suspendu à la subversion russe, n'est-ce pas?
Oui, voilà, une subversion russe, étant donné qu'il y a des minorités russes en Moldavie,
en tout cas,
les pays baltes.
Oui,
voilà.
Mais
donc ils se sentent menacés.
Ce que je veux dire simplement, ce n'est pas parce que il ne va pas attaquer l'Allemagne ou la France que l'Europe n'est pas en danger. En danger, n'est-ce pas? Parce que, étant donné déjà l'état des Balkans, le nombre de partis de la Moldavie, la Roumanie, qui sont convoités par la Russie, ou en tout cas susceptibles d'être convoités, les pays baltes sont aussi très vulnérables. Donc, il y a là un principe de désordre, et dans des ordres, je le souligne, vraiment orientés par des passions cruelles qui est devant nous.
Hubert Védrine.
Je suis sur un terrain délicat parce que j'ai un point de vue un peu différent, mais pas contraire. Et je comprends très bien la présentation que vous faites, Alain et M. Manant. Mais je rappelle que Yeltsin, le président censé être pro-occidental au début, avait introduit dans le traité, avant la fin de l'URSS, entre la Russie et l'Ukraine, le fait que les Russes avaient un droit de regard et de protection sur les Russes à l'étranger. Il y avait déjà l'obsession du fait que la désintégration de l'URSS allait laisser 25 à 30 millions de russophones en dehors. Ce n'est pas que Poutine. D'autre part, je n'ai jamais vu aucun opposant à Poutine contredire Poutine sur ce point particulier. Donc il y a un danger russe.
Bon, il y a un danger russe. Il y a un danger russe.
Mais si on se rappelle ce que disaient Kissinger et Brzezinski, pour une fois d'accord, à la fin de leur vie, en disant qu'il fallait couper l'Ukraine de la Russie, mais surtout pas faire de l'Ukraine un aiguillon contre la Russie. Brzezinski, statut spécial pour la Crimée. Et d'autre part, Kissinger fait englober tout ça dans un accord général. Un peu l'idée de la Confédération de Mitterrand, mais lancé beaucoup trop tôt. Pas du tout par amour de la Russie, qu'il ait combattu toute sa vie, mais pour l'insérer dans quelque chose. Donc c'est complètement différent de ce qu'on dit aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il y a une école réaliste aux États-Unis, Mersheimer par exemple, mais aussi plus récemment le discours de Jeffrey Sachs, encore plus récemment le long article de Graham Allison. Ils disent en gros la Russie est dangereuse, mais c'est notre politique imbécile, à nous Américains, qui en a fait un animal enragé, qu'il faut maintenant contrer pour des tas de raisons. Vous voyez, c'est pas le contraire, mais c'est pas exactement la même approche.
Et vous reprendriez ce reproche à votre compte ?
Sur l'aspect historique, oui.
Est-ce que...
Mais ça change pas tellement la situation d'aujourd'hui.
Mais est-ce que, effectivement, les Américains ont une part de responsabilité, selon vous, dans les déclenchements de la guerre en Ukraine ?
Ils en parlent, le ratage de la gestion de la dangereuse question russe. Mais on raisonne sur 30 ans, là. Je ne parle pas des 5 dernières années. Il n'y a rien dans ce que je dis, je ne veux pas être mal compris, qui soit une justification de l'attaque de Poutine en 2022. Mais c'est des gens qui pensent que l'engrenage à partir de 2014 aurait pu être évité par toute une série de décisions autres. Et moi, je serais inquiet d'un Occident. Un Occident, je ne sais pas si encore l'Occident, qui serait incapable d'évaluer sa propre politique. Et donc la tonalité européenne qui est aujourd'hui, qui est complètement unilatérale sur un seul point, m'inquiète pour la suite. On est minoritaire dans le monde d'aujourd'hui. Il y a un chute global dont on peut dire qu'il n'est pas global, etc., etc. Mais enfin, les Occidentaux, on ne sait même pas si c'est l'Occident, les Européens sont minoritaires. Le premier élément pour notre sécurité à moyen et long terme, c'est d'être capable d'analyser sérieusement comment on a géré la guerre froide, comment on a géré la Russie après, etc., etc. Et je ne pense pas qu'on puisse balayer des points de vue, genre Allison, récemment, qui sont des points de vue américains. Maintenant, il y a qu'est-ce qu'on fait ? C'est évident qu'il faut bloquer Poutine, qu'il faut qu'il n'y ait plus jamais la tentation et la possibilité de lancer des opérations sous prétexte qu'il y a des Russes à droite à gauche, et qu'il faut faire de l'Europe, ce qui n'est pas le cas du tout aujourd'hui, en termes de défense, une sorte de porc-épic pour aujourd'hui. Voilà ce que je dis aujourd'hui.
Très bien.
Et on ne peut pas escamoter le débat historique, quand même.
Oui, bien
sûr. Oui, non, mais le débat historique est tout à fait justifié. Je serais prêt à accepter beaucoup de critiques de notre politique passée, bien sûr. Peut-être aurait-on pu éviter d'en arriver là, mais le fait est que ce qui détermine aujourd'hui la situation, ce sont les décisions de la Russie en 2022. C'est à cela que nous avons à réagir. Or, aujourd'hui, je ne répète pas ce que j'ai dit, la Russie présente en effet une menace extrêmement grave qui ne peut être contrée qu'en infligeant à la Russie un échec majeur en Ukraine, afin que, eux aussi, nous aurons peut-être à revoir notre politique ultérieurement, mais eux aussi, en plus encore que nous, ont un besoin urgent de revoir la manière dont ils conçoivent l'avenir de la Russie. Car s'opposer à la Russie, c'est aujourd'hui rendre plutôt service à la Russie.
Oui, oui.
Car ils sont en train de s'enfoncer dans une dégradation collective qui est vraiment dommageable.
D'accord.
Au peuple russe.
Il y a 2 millions de Russes modernes qui sont partis. Hein.
Ben oui.
Oui, il y a des Russes qui sont partis.
Il y a raison.
Alors, vous dites, Pierre Manant, dans le Figaro, l'Europe, c'est ce que nous défendons en défendant l'Ukraine. Très belle phrase, mais alors la question est de savoir comment défendre l'Ukraine. C'est-à-dire, faut-il en passer par un renforcement de l'intégration européenne ou bien faut-il faire confiance aux nations elle-même, à leurs décisions et à des alliances d'ailleurs qui pourraient aller au-delà de l'Europe, l'Australie ou d'autres, et au contraire exclure certains pays européens comme la Slovaquie et la Hongrie qui sont en train de passer sous orbite russe. Hubert Védrine.
Je ne crois pas que ce soit sous orbite russe, mais en fait, bon, c'est un autre sujet. De même, je ne crois pas que Trump veuille faire une alliance avec la Russie. Il ne veut aucune alliance. Il veut passer la question ukrainienne par pertes et profits. Il ne veut pas faire une alliance. Bon, les questions concrètes devant lesquelles nous sommes, c'est dans l'hypothèse d'un arrêt des combats que Trump va peut-être imposer, même avant un cessez-le-feu, encore moins un accord de paix. Qu'est-ce que des Européens ne parlent pas de l'Union européenne qui n'a pas de compétences en matière de défense ? Quoi que raconte Mme von der Leyen, je parle des pays européens, les quelques pays européens qui ont des armées, il n'y en a pas tellement. Est-ce que les pays en question pourraient concrétiser les idées mises en avant par le président Macron ou le Premier ministre britannique pour apporter des garanties à quelque chose, après pour le maintien au moins quand même d'un cessez-le-feu pour que la Russie ne recommence pas ? Première question. En tout cas, l'Angleterre va demander qu'il y ait quand même une garantie américaine. Est-ce qu'elle sera obtenue in fine ou pas ? Si elle n'est pas obtenue, qu'est-ce qu'on décidera ? Le on étant donc France, Angleterre, Allemagne, Pologne, Suède, peut-être un peu Italie quand même, etc. La question qui vient immédiatement après, c'est de savoir est-ce que enfin les Européens, obligés par Trump, par Poutine, mais surtout Trump, de créer un pôle européen de l'Alliance Atlantique, est-ce qu'il y a un pilier, est-ce qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur quelle force on met dedans ? Comment c'est organisé ? L'état-major, c'est qui ? Et qui donne les ordres à l'état-major ? Question qui ne s'est jamais posée depuis 1949, dont les Européens n'ont jamais voulu, sinon ils auraient été gaullistes, hein, ils ont passé leur vie à embêter le général. Bon, la question se pose maintenant, pas tellement du fait de Poutine, qui a réveillé l'Alliance, mais du fait de Trump.
Du fait de Trump,
donc c'est pour ça que le moment est vraiment historique, et la concrétisation de ce que j'appelais, que je souhaite, une Europe porc-épique, pour que personne, Poutine ou n'importe qui d'autre, ait envie de l'attaquer, c'est une affaire sur quelques années qui va se décider ou non, je ne sais pas,
oui,
dans les semaines qui viennent.
Il y a toutes sortes de sommets qui vont dans ce sens, mais je réitère ma question permanente, c'est-à-dire, est-ce que c'est par l'intégration européenne qu'il faut en passer ou par une sorte de reviviscence des nations ?
L'intégration européenne, depuis des dizaines d'années, on ne l'a pas faite, donc on ne va pas la faire dans l'urgence, contrairement à ce que certains font semblant de croire. Bon, ce n'est pas le sujet. L'Europe sera porc-épique, comme l'a fort bien dit Hubert Védrine, c'est-à-dire il y a quelques nations qui sont volontaires et qui ont certaines capacités qui vont fédérer, allier
forcément fédéré, hein.
Non, allié.
Les peuples veulent pas de fédéral.
Non, je me suis corrigé.
Oui,
allier, coordonner leurs énergies. Voilà. Prenez deux pays comme la Pologne d'un côté, l'Espagne de l'autre. La Pologne est très allante. L'Espagne n'a aucune envie de se mêler de tout ça. Bien. Donc, ce seront des initiatives nationales. On voit déjà les vieux alliés, les vieux de la vieille, le Royaume-Uni et la France qui sont en pointe. Mais pourquoi faire ? Donc, aujourd'hui, les Européens se trouvent dans la nécessité, eux, d'arrêter Poutine, en réalité. Parce que ce qu'il est en train de faire, d'obtenir de Trump, peut-être, c'est qu'il y a un cessez-le-feu qui induise un nouveau régime en Ukraine. Il a déjà...
Il
vient très habilement d'invoquer des élections sous contrôle des Nations Unies. Il pourrait commencer par la Russie, d'ailleurs, pour faire des élections sous contrôle des Nations Unies. Bon, donc, on voit bien, Zelensky ne tient qu'à un fil. Il ne tient qu'au fil franco-britannique. Mais alors, il ne s'agira pas de mettre des troupes pour le maintien de la paix, parce que les troupes de maintien de la paix ne font pas la guerre, par définition. Les casques bleus ne font pas la guerre. Donc, si nous mettons des troupes, ce sont des troupes qui doivent être prêtes à s'opposer à une avancée russe. Bon, donc,
Vous pensez personnellement qu'il faut aller jusque-là, Pierre Manon ?
C'est-à-dire... Non,
mais il a raison, c'est la question qui se poserait.
C'est la question... Poutine ne va pas accepter que les deux pays nucléaires de l'OTAN et des troupes en Ukraine. Donc, s'il y a des troupes françaises et britanniques, elles seront imposées à Poutine. Donc, c'est là l'épreuve de force devant laquelle nous sommes.
Et alors, d'un autre côté, nous sommes aujourd'hui, pour penser ce qui arrive, écartelés entre deux grandes références historiques. La catastrophe La guerre de 14, c'est-à-dire la catastrophe de l'engrenage. Munich, c'est-à-dire la catastrophe de l'apaisement. Henri Guénaud a signé un article intitulé « Les somnambules ». Les somnambules peuvent nous mener à la guerre. C'était d'ailleurs le titre d'un livre sur la guerre de 14. Et Munich, ça veut dire, bon ben voilà, on essaye de calmer Poutine comme si cette politique d'apaisement pouvait avoir le moindre succès. Jugez-vous l'une de ces références pertinentes ou pensez-vous que cette situation est inédite et qu'elles doivent être écartées toutes les deux ?
Hubert Védrine. Moi, je suis plutôt du côté de ceux qui pensent que c'est inédit, que c'est sans comparaison, que les références historiques automatiques, Munich, Yalta et compagnie, sont infondées, et que ça traduit une sorte de, je ne vais pas dire de paresse intellectuelle, mais d'incapacité à maîtriser une situation tellement différente, tellement complexe, qu'on ne trouve pas les mots, d'autant que c'est quand même les Européens, les gentils Européens, dont je disais pendant longtemps que c'était des bisounours égarés dans Jurassic Park, c'était gentil pour stimuler, c'est moins le cas maintenant. Mais c'est quand même les Européens qui ont le plus cru à la communauté internationale, au droit international, au multilatéralisme, à l'exportation automatique des valeurs universelles, tatatatatata. Et on tombe de l'armoire, beaucoup plus que les autres. Donc pour toutes ces raisons, moi je plaide pour que des gens comme vous, comme Pierre Manant et d'autres, fassent une analyse tout à fait nouvelle. Et d'ailleurs dans ce que je disais, en citant les grands réalistes américains, qui ne sont pas exactement sur la ligne moyenne des Européens d'aujourd'hui, ils emploient rarement les mots automatiques comme ça. Donc il faut comprendre quelle est la hiérarchie des dangers. Où est le danger chinois par rapport au danger russe? Est-ce qu'on peut finalement gérer le danger russe ou pas, etc., etc. Mais je méfie des références automatiques. Voilà.
Et vous?
Oui, je ne crois pas, en effet, que ce soit comparable. Les passions, les dispositions ne sont pas les mêmes. Nos pays ne sont pas prêts à subir la saignée de la guerre, de la Grande Guerre. Et ils n'ont pas en face d'eux un insensé pervers comme Hitler, n'est-ce pas? Donc, Poutine est très dangereux. Mais il y a, si j'ose dire, il y a des limites à ses ambitions. Tel qu'il est, il est dangereux. Et tel qu'il est, il faut qu'il...
Il faut
l'arrêter.
Il faut le bloquer.
Il faut le bloquer. Mais ces parallèles historiques ne nous servent pas à grand-chose. Ce qu'il faut recouvrer, c'est, en général, une capacité d'action de nos différentes nations et une capacité d'action coordonnée des nations européennes. C'est cela qu'il nous faut reconstruire.
Alors, je ne vais pas me faire l'avocat d'une référence contre l'autre. Cela étant, au moment de Munich, comme le rappelle Maurizio Serra dans son livre sur cette histoire, Chamberlain, comme Daladier, rappelait la distinction bismarckienne entre les questions d'intérêt vital et les questions d'intérêt non vital. Et beaucoup de gens en France, notamment les souverainistes qui n'en ont rien à faire de la souveraineté de l'Ukraine, utilisent cette distinction, notamment Marine Le Pen. Ce n'est pas un intérêt vital. Et on entend l'expression, quand même très intéressante, on ne va pas mourir pour Kiev, qui rappelle mourir pour Danzig. Et j'ajoute ceci, Pierre Manant, parce que dans un entretien, dans un très bel entretien pour Causeur, vous dites ceci, s'adressant aux Polonais opprimés par la Russie, Rousseau leur faisait remarquer qu'il y a naturellement dans tous les cœurs de grandes passions en réserve. Citation magnifique. Y a-t-il des grandes passions en réserve en France? On dit, bon, il faut avoir une autre politique, notamment des investissements militaires, et peut-être faudrait-il faire des efforts. Augmenter les impôts, augmenter la durée du travail, l'allonger aussi, c'est-à-dire retarder éventuellement la retraite, et la grande majorité des Français sont hostiles à tout effort. Et ça me rappelle la France de l'étrange défaite. C'est-à-dire de Marc Bloch. C'est-à-dire, voilà, le danger monte, mais on ne veut pas voir, on va continuer à mener sa petite vie. Donc, y a-t-il en France et en Europe de grandes passions en réserve? Je pose la question à tous les deux. Hubert Védrine.
J'aurais pu dire ça avant l'Ukraine, d'ailleurs, parce que le fait de vouloir travailler moins et gagner plus, qui est une sorte de particularité française. La question se posait avant, pour des raisons d'équilibre des finances publiques, raisons de niveau de fiscalité, etc. Des grandes passions. Il faut sauver la civilisation européenne, la culture européenne, les sociétés européennes, qui sont quand même ce qu'on a inventé de mieux, historiquement, ou de moins pire. Pardon. En plus, elles se corrigent. Est-ce que ça passe par la construction européenne? En partie, mais en partie seulement. Parce que les élites mondialisatrices et européistes ont perdu les peuples en route. Donc il y a une sorte de grande île démocratique à reconstituer entre les élites et les peuples. Et c'est à ce prix qu'on pourra convaincre, y compris les Français, qu'il faut que l'Europe soit une sorte de puissance, même si ça n'a pas de rapport avec ce que c'était avant, pour exister, évidemment, pour dissuader la Russie future, mais aussi par rapport à la Chine, la Chine, les États-Unis, l'islamisme et compagnie. Mais il faut passer par cette... Il faut oser, moi, je dirais, mettre en avant la civilisation européenne. Et là, je pense qu'il y a énormément de réserves, dès lors que les gens auront compris que le train-train quotidien ne va pas suffire, le garantit. Mais ça passe... Même au-delà de la, même s'il y avait une moins mauvaise sortie que ce que l'on craint sur l'Ukraine, la question que vous posez serait là entièrement. Mais il n'y a pas cet élément entre les peuples d'Europe et la construction européenne à coup de directives et compagnie ne répond pas à ça. C'est pour ça que Delors, qui était un grand européen, mais avec une vraie fibre sociale et humaine, disait fédération d'État-nation. D'État-nation. Donc il n'a jamais été pour l'intégration à n'importe quel prix. C'est ça qui rend des peuples plutôt pro-européen, allergique. Donc je lis là cette dimension disons sociale, culturelle, de civilisation à votre question qui était plus géopolitique.
Oui, mais ce que vous dites sur la civilisation européenne me va droit au cœur, Hubert Védrine. Et je me suis longtemps demandé si la construction européenne n'avait pas été édifiée contre la civilisation européenne, c'est-à-dire nous ne sommes plus un monde parmi d'autres, nous sommes le monde, nous sommes les valeurs universelles. Mais voilà, je passe la parole à Permanent tout de suite.
Je pense que la menace russe est réelle, je viens de le souligner, mais ce n'est pas comparable à la menace hitlérienne.
Bien sûr.
Les forces de la Russie sont peu de choses à côté de la force qu'a déclenchée contre l'Europe et le monde entier Hitler, n'est-ce pas ? Ce n'est pas comparable. Donc, nous n'avons pas besoin d'une transformation radicale et de partir tous le sac à dos pour remplir les tranchées. Mais il s'agit simplement de retrouver un petit peu de force et un petit peu de lucidité sur notre condition. Et il est certain que les Européens, Hubert Védrine vient de le rappeler, ont rêvé une Europe fictive, n'est-ce pas ? Il faut retrouver la civilisation européenne, c'est-à-dire celle qui a été élaborée par le mélange de rivalité et d'émulation et d'imitation entre nations européennes. Parce que quand même, la vérité de l'histoire européenne, c'est l'histoire de la dialectique entre les nations, de l'interaction entre les nations. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle l'idée européenne ou les valeurs européennes, c'est une distillation extrêmement abstraite, extrêmement partiale et souvent extrêmement sectaire du progressisme européen qui lui-même n'est que une partie de l'esprit de l'Europe, car si nous devons vivre simplement avec les produits de l'élaboration des institutions européennes, nous allons périr de faim et de soif. Donc non, il faut en effet redonner vie à des nations qui, en plus, n'ont plus rien. Même nos, je vais dire quelque chose d'énorme, même nos populistes, il faut être quand même d'assez mauvaise foi pour y voir la continuation des fascismes des années 30. Bon, donc reprenons un peu de bon sens et retrouvons ce que nous avons déjà sous la main et que par idéologie, abstraction et paresse, nous avons rejeté, nous avons répudié. Donc tout est là pour renaître.
Bien, ce que vous dites, c'est les euros, les billets.
Oui, oui, absolument.
Les billets sur Galliariens.
Oui.
Oui, oui. C'est Régis Debray, d'ailleurs, fait une très belle analyse des.
L'idée qu'en effaçant tout.
C'est le vide.
Qu'en effaçant tous les
ponts. C'est les ponts au lieu des...
Oui, d'ailleurs, on a,
à la place des dieux.
On a des ponts
c'est
magnifiques,
à la place des dieux.
De plus en plus magnifiques.
Des ponts entre rien et rien.
On efface... On a pensé que l'Europe était au bout de l'effacement des nations. Mais au bout de l'effacement des nations, il y a l'effacement de l'Europe, et puis voilà.
Oui, mais ça, c'est l'idéologie qui a été longtemps dominante, mais il y a aussi un mouvement très bien analysé par Tocqueville, un auteur que vous connaissez parfaitement, Pierre Manant, c'est-à-dire les progrès de l'individualisme. Nous sommes à l'ère de l'individu roi. Et c'est là, c'est pour cela que je repose ma question. Avons-nous de grandes passions en réserve? Sans compter que la civilisation européenne est mise en péril par l'entrée, à travers les réseaux sociaux et tout ça, dans une société post-littéraire, voire post-culturelle. Il y a eu une manifestation pour Boualem-Sansal il y a quelques jours. Les hommes politiques étaient présents. Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, Gérard Larcher, il y avait Brune Pivet, etc. Mais nous étions à peine 200. Parce qu'un écrivain, mais en prison, ça n'émeut personne.
Si vous permettez, à propos des... disons, de l'énergie en réserve, les grandes passions.
Oui, les grandes passions en réserve.
Ce qu'on vient de dire, Pierre Manant et moi, et vous aussi, dans vos questions, la réponse est là, en fait. Surtout si on prend la vision du monde. On est minoritaire, les Européens. Pour ça, on ne va pas reconvertir le monde entier, on ne va pas réévangéliser le monde entier, on ne va pas recoloniser le monde entier. Mais il faut défendre notre civilisation dans ce qu'elle a d'extraordinaire et de spécifique. Là, il y a des passions en réserve.
Mais ne sommes-nous pas nous-mêmes tous les trois et quelques autres, minoritaires en Europe.
Ah bon, on est minoritaires, on est ici, naturellement.
Mais... ceux qui font quelque chose sont toujours minoritaires.
Bon, bien sûr. Mais si on incite les gens à regarder l'état du monde, alors on est différent du monde américain, on le voit bien maintenant, même si on regarde une relation transatlantique, le monde chinois, c'est pas pareil. Le monde russe, même si surmonté la tragédie ukrainienne et s'occuper enfin d'eux-mêmes, c'est autre, le monde africain, c'est autre, le monde musulman, avec la guerre phénoménale au sein du monde musulman, entre les musulmans en général et l'islam. Donc l'Europe, c'est une sorte de pépite. Donc je suis sûr qu'il y a une façon de reformuler de façon non bureaucratique, non technocratique. On ne parle pas de construction européenne, ça énerve les gens, un truc qui se construit sans arrêt, sans aboutir. Il y a une reformulation, disons, à la fois très intellectuelle et philosophique et politique, qui trouverait un certain écho, je crois, dans l'opinion aujourd'hui.
Oui. Pierre Manant, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, je pense qu'en réalité, des grandes passions, je ne sais pas, mais en tout cas des ressources, certainement. L'abstraction des droits individuels dans lequel où il n'y aurait que les droits individuels pour habiter la planète, cette abstraction ne correspond à la vie de personne, en réalité, à part quelques militants qui peut-être le croient. Donc, nous savons bien que nous ne sommes pas des individus. Je ne sais pas si vous avez été un individu. Vous avez le sentiment de créer vos propres valeurs ? Moi, je n'ai jamais réussi à créer mes propres valeurs.
En plus, c'est mortel écologiquement. Oui. Au sens vrai de l'écologie, pas au sens de l'écologie politique, mais au sens scientifique.
Donc, je crois que
l'individualisme maximaliste est un danger monstrueux.
Il suffirait d'assez peu pour que nous découvrions qu'autour de nous, toutes ces ressources sont encore disponibles. Il y a un effort à faire, mais cet effort n'est pas démesuré. Parce que le danger russe, qui est un danger réel, urgent, immédiat, lui non plus n'est pas démesuré. Donc, nous avons les moyens de,
oui, c'est vrai,
de faire face aux défis.
Je suis complètement d'accord.
Hubert Védrine, oui, bien sûr. Mais donc, il y a ce danger russe, il faut faire face. Mais certains répondent aujourd'hui qu'il existe un autre danger pour la civilisation européenne. Et par exemple, Philippe de Villiers écrit récemment: on nous parle de la menace russe pour ne pas parler de la menace islamiste. Celle-ci existe, l'entrisme islamiste, fait l'actualité, à l'école, dans le sport, dans les entreprises. Le changement démographique en Europe est très important. Alors, que pensez-vous de cette objection ?
Elle ne tient pas.
Ah.
C'est deux choses différentes. C'est évident qu'il faut bloquer Poutine, faire en sorte qu'aucun Russe après ne veuille recommencer, donc ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'Europe. Que d'autre part, il y a une vraie guerre mondiale, j'emploie les termes tout à l'heure, hein, au sein du monde musulman sunnite notamment. entre les musulmans et la minorité islamiste dangereuse par rapport à ça. Il faut une alliance entre les démocrates et les musulmans pour endiguer l'islamisme.
Alors, mais il y a l'islamisme chez nous maintenant aussi.
Oui, de pour endiguer l'islamisme partout. Puisque depuis que l'Arabie a été terrorisée par la révolution islamique en Iran, ils ont quand même véhiculé par toutes sortes de moyens d'influence considérable l'islamisme le plus régressif qui existe par rapport à ça. Donc il y a une bataille interne qui a lieu dans n'importe quel pays arabo-musulman et qui a lieu à Bruxelles, à Paris, etc. Bon. Donc c'est deux choses, je ne vois pas pourquoi il faudrait abandonner un sujet, il faut traiter les deux, et je pense que c'est possible. Et peu importe s'il y a deux, trois hommes politiques de deuxième catégorie qui se servent d'un argument pour pas traiter un sujet, bon, c'est pas le vrai sujet. Bon, là, il faut donc une alliance des démocrates et des musulmans pour, pas le dire parce que c'est contre-productif, mais endiguer l'islamisme, en vrai, ce que font énormément de maghrébins ou autres tous les jours, hein, par rapport à ça. Et d'autre part, gérer correctement la question migratoire, comme le fait la gauche danoise depuis des années, et Madame Meloni, à sa façon. Il faut aller vers ça. On a besoin d'énormément de gens, mais c'est pas ceux que les passeurs amènent. Et il faut des gens qui veuillent s'intégrer, qui viennent pas que pour l'hôpital, etc. Et donc contrer également l'islamisme. Et d'autre part, préserver le droit d'asile en vrai pour les gens en danger, et que ce soit pas un moyen détourné de faire arriver une immigration illégale. C'est facile à, très dur à faire, notamment en France, mais c'est facile à résumer. Si on arrive à mettre en œuvre une politique de ce genre, le pacte asile-immigration à 27 va un peu dans ce sens. En 4-5 années, vous changez complètement la physionomie politique parce que des partis extrémistes se servent du fait que la question dont je viens de parler est non seulement pas traitée, mais elle est niée. Par ceux qui prétendent qu'elle n'existe pas. Si vous arrivez à gérer ça, vous retombez sur un sol où on peut faire face correctement aux différentes menaces.
C'est vrai, on a l'impression, à lire Philippe de Villiers, qu'il ne sait pas compter jusqu'à deux. C'est-à-dire, deux menaces peuvent exister, Pierre Manant.
Oui, je partage ce que vient de dire Hubert Védrine. Nous avons trois, je parle de pression, soit menace directe de la Russie, pression américaine, extraterritorialité du droit américain, il faut tout de même là aussi ne pas se laisser trop bousculer, et puis évidemment pression du Sud, pression islamique, bien. Et comme vient de le dire Hubert Védrine, en effet, une des démarches urgentes, c'est de parvenir enfin à une politique d'immigration cohérente. Mais la première étape, c'est de s'accorder le droit d'avoir une politique d'immigration.
Or, aujourd'hui, c'est compliqué avec
l'obstacle, c'est qu'il y a un principe de justice progressiste, n'est-ce pas ? C'est que toute administration des migrations par la nation a quelque chose d'illégitime parce qu'elle introduit une distinction entre l'intérieur et l'extérieur. Il n'y a que des droits de l'homme, il n'y a plus de droits du citoyen.
Oui, mais ça c'est l'asile pour tous, c'est absurde.
Oui,
c'est ingérable.
Je partage votre avis, c'est absurde, mais c'est une opinion très puissante.
Dans les médias, dans le débat public, mais pas dans la grande opinion.
Dans la magistrature.
Si les gens votaient, ils seraient sur l'autre ligne.
Oui, mais c'est quand même l'opinion.
On a besoin, mais il faut gérer, quoi.
Mais c'est quand même l'opinion qui gouverne.
Oui, je suis d'accord. Enfin, qui parle, en tout cas, mais.
Qui parle et qui gouverne. Oui. Et qui gouverne. Donc, je résume. Il s'agit de retrouver les conditions de notre régime politique. Là encore, ce que nous avons sous la main, c'est quand même une république qui se gouverne elle-même. Ouais. Elle a décidé qu'elle n'avait pas le droit de se gouverner elle-même parce que tout le monde avait les mêmes droits, d'une certaine façon.
Et il faut qu'elle se gouverne.
En quelque place du monde où il se trouve, il avait le droit de venir en France et d'être français s'il le souhaitait. C'est tout de même une construction intellectuelle qui ne tient pas debout, n'est-ce pas ?
Oui, c'est
ça. Mais cette opinion s'est emparée des esprits et des cœurs. Et elle, au fond, si elle ne dirige pas la politique puisqu'il n'y a pas de politique, elle empêche toute politique raisonnable dans ce domaine.
Notamment avec les différentes cours suprêmes françaises et européennes. Mais c'est vrai, c'est l'idée que la nation doit retrouver ses contours, sa vigueur, ses passions
en réserve. Ses contours, sa vigueur, oui, exactement.
Face aux différentes menaces auxquelles...
Qui ne sont pas du même caractère, effectivement.
Et qui ne sont pas du même caractère auxquelles elle est confrontée. Hein, oui, vous êtes d'accord ? On peut conclure ainsi ?
Fédération d'État-nation.
Oui, c'est aussi ce que vous pensez, Pierre Manant.
Je dirais un concert d'État-nation.
Un concert, oui, plutôt.
Parce que... Non, mais il y a l'euro, quand même.
Oui, oui, oui.
Mais quand Delors disait ça intelligemment, c'était pour contrer les extrémistes de l'intégration. Supranationaux aveugles.
Supranationaux, oui. Donc, vous étiez favorable à l'Europe selon Jacques Delors, Hubert Védrine.
J'étais favorable à l'Europe de Kohl et Mitterrand.
C'était
quoi ? Qui prenait les décisions et qui avait choisi Delors ensemble. Et qui aucun des deux n'était supranationaliste, ni Kohl ni Mitterrand.
Oui, sauf que Mitterrand avait dit, c'est une déclaration célèbre, le nationalisme c'est la guerre, alors que l'hitlérisme c'était plutôt un impérialisme.
Il parlait pas du patriotisme.
Ah oui, c'est ça. C'est ça. Et d'un autre côté, c'était les petites nations qui s'étaient élevées contre l'impérialisme hitlérien, quand même, comme l'a rappelé Raymond.
Oui, mais c'était pas non plus un colloque historique quand il a dit ça.
Donc, voilà. Enfin, vous êtes d'accord sur une Europe qui doit trouver ses ressources en elle-même et des nations qui doivent retrouver leur contour. Pierre Manant, pour finir.
Vous avez parfaitement résumé ce que je pense, en effet.
Bon, bah, très bien. Si j'ai fait le bon résumé, je vous remercie tous les deux. Alors, je voudrais rappeler, Pierre Manant, que vous avez donné un très bel entretien à Causeur. Le numéro doit paraître le 2 avril sous ce titre très juste, Qui est l'ennemi? Et Hubert Védrine, je rappelle le titre de votre livre, Nouveau dictionnaire amoureux de la géopolitique. Il est publié chez Plon.
L'élément clé, c'est nouveau.
Oui, nouveau.
Parce que j'ai fini de le réécrire après la réélection de Trump.
Voilà.
Où je dis impensable mais vrai.
Merci, Hubert Védrine. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation François Canac, à la technique aujourd'hui, Thomas Robin. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre À la découverte de Suran. Mes invités seront Jean-Paul Enthoven et Fabrice Lucchini. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.